Cours de crypto, session 3, chiffrement par bloc.
Bonjour. Bienvenue au troisième cours de crypto. Aujourd'hui, on va discuter les chiffrements par bloc. Esthétiquement, c'est cool comme truc. J'espère aussi, non, esthétiquement. La dernière fois, on a discuté... Ah, il y a un chat. On a discuté le chiffrement de flux. On a un type de message arbitraire, on peut chiffrer arbitrairement et tout est bien. Et on a various méthodes à générer des streams pseudo-aléatoires. On commençait avec une petite clé, on génère du matériel avec quoi chiffrer, avec du XOR et tout va bien. Mais ça, c'est une autre méthode de chiffrement qui s'appelle le chiffrement par bloc. Et en fait, cette méthode, vous allez trouver, elle est beaucoup plus populaire. Par exemple, qui ici a entendu parler de AES ? Ben oui, AES, c'est un chiffrement par bloc. C'est pas un chiffrement de flux. Tous les trucs qu'on a discutés en chiffrement de trucs, c'est vu que ça n'applique pas à l'AES, qui est en fait le standard de chiffrement le plus appliqué et populaire et utilisé aujourd'hui dans le monde. Dans cette chambre toute seule, il y a probablement 30 trucs électroniques qui utilisent AES en une façon ou une autre. Donc, le chiffrement de bloc, comme le chiffrement régulier, c'est une méthode de chiffrer le texte avec une clé. Donc, c'est comme le chiffrement de flux. La taille du texte et la clé sont fixes cette fois. Ce qui n'est pas le cas dans le chiffrement de flux. Dans le chiffrement de flux, on avait la taille de la clé. Elle était aussi grande de la taille du message, qui était aussi d'une taille arbitraire. Sauf si on était en train d'utiliser cette clé pour une fonction de génération pseudo-aléatoire, et donc la clé est fixe, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais dans le chiffrement par bloc, la taille du texte et la clé sont fixes et, depuis le début. Et ça, en fait, cela permet plus de contrôle sur les propriétés de la façon qu'on chiffre les trucs. Il paraît que, en fait, les chiffrements de flux sont un peu difficiles à appliquer proprement sans qu'il y ait des failles de sécurité. Premièrement, parce que les fonctions qui génèrent les streams, les flux qu'on utilise pour chiffrer, sont difficiles à implémenter d'une façon sûre. Et deuxièmement, puisque c'est basé sur le principe du masque jetable, le one-time pad, il se passe que si on répète le matériel du clé deux fois, comme vous avez vu, si vous avez fait le TP, on peut casser tous les chiffrements. Et ça, c'est une erreur qui se passe très régulièrement à cause... du design de chiffrement de flux. Ça se passe presque tout le temps. Pas tout le temps, mais ça se passe suffisamment que on peut se permettre de trouver une nouvelle façon de chiffrement où l'application est plus sûre et on ne doit pas se méfier si la clé se répète deux fois avec notre générateur, etc. Et donc, par faire une restriction sur la taille du message et dire ça c'est la taille de notre message, on va faire les opérations sur cette taille. On va faire avec cette taille de clé, on peut se permettre beaucoup plus d'opérations parce qu'on connaît la taille et on peut faire des transformations qui s'appliquent sur un message de 16 bytes, un message de 32 bytes. On connaît déjà et on peut faire façon que la transformation s'applique uniforme, se distribue sur une taille qui est déjà connue. Ça nous aide à créer des méthodes de chiffrement qui sont... qui nous permettent de faire plus de choses parce qu'on a plus de liberté, on connaît la taille déjà. Donc cette session va couvrir plutôt plus ou moins le côté pratique du chiffrement par bloc, mais dans les prochaines sessions, en fait, il va y avoir 2-3 sessions qui vont parler sur le chiffrement par bloc, les autres qui seront plus théoriques, genre et des abstractions, comment représenter le chiffrement par bloc d'une manière abstraite, et aussi l'analyse, la cryptanalyse différentielle et linéaire. Ce sont en fait des méthodes de cryptanalyse qui ont été inventées à cause des chiffrements par bloc pour casser les chiffrements par bloc. Et ce sont les méthodes de cryptanalyse les plus populaires aujourd'hui, ou les plus relevant. Donc, le chiffrement symétrique, ça c'est le slide que vous voyez dans chaque présentation, c'est juste un rappel. Qu'est-ce que c'est que le chiffrement symétrique? On a Alice et Bob qui veulent communiquer. Alice a une fonction de chiffrement, Bob a une fonction de déchiffrement. Alice a un message, une clé. Elle utilise la fonction avec la clé et le message pour produire le message chiffré. Ce qu'il envoie, et on veut, notre but, c'est que l'Internet ne peut pas espionner sur le message, il ne peut pas altérer le message, Le message, c'est il arrive chez Bob. Bob utilise D avec la clé K qu'il a déjà partagée avec Alice. Pour déchiffrer le message, fonction de déchiffrement avec la clé et le message chiffré, il tient M. Et c'est comme ça qu'ils ont communiqué. Donc ici, clairement, c'est du chiffrement symétrique. Parce que comme on l'a dit la fois dernière, ils ont déjà partagé la clé, ils ont ce privilège. Donc s'ils n'ont pas une clé, donc il faut faire un chiffrement asymétrique pour qu'ils puissent établir un clé entre eux-mêmes sans que l'Internet sache ce qui est cette clé. Donc ils sont en train de communiquer à travers l'Internet. Et ils établissent une clé à travers l'Internet, mais l'Internet ne veut pas savoir quelle est cette clé. Ça, c'est le chiffrement asymétrique, ce qui concerne la deuxième partie de ce cours de 18 sessions, et ça va dans quelques semaines. En tout cas, vous avez vu ce slide dans le chiffrement de flux, non? C'était le même slide. Vous vous souvenez? Donc, mais la seule différence ici dans la fonction E et D, c'est juste que E et D sont efficaces, inversibles, ils sont connus par tout le monde, comme toujours. Mais c'est juste que M, K et C sont de taille déterminée. Juste, c'est ça. Et donc, si on prend un regard plus proche à la fonction de chiffrement, on a le message qui vient de l'espace de message. Ça, en fait, ça ne doit pas être K, ça doit être M, grand M. Excusez-moi, je vais le réparer. Donc, bonjour, asseyez-vous. Ah, pour les nouveaux, il y a des sandwichs. Oui, ça doit être l'espace de message M. C'est une erreur, OK? Mais c'est le truc qu'ici, l'univers des messages est délimité par N. Donc, on a une taille. Ici, pour représenter formellement, la clé aussi, elle a une taille. OK? Et le message chiffré aussi de l'univers, il a une taille spécifiée. C'est comme ça qu'on formalise que les trucs ont des tailles. OK? Je sais que c'est la millième fois que je dis ce truc, mais c'est juste que je suis en train de l'illustrer. Comment on décrit ça d'une façon formelle? Donc, des exemples. Ces deux chiffrements par bloc sont les chiffrements par bloc les plus populaires, les plus utilisés aujourd'hui. Vous avez 3DS, qui est aussi le nom de la plus nouvelle console handheld Nintendo, mais ce n'est pas le même truc. Vous avez N qui est 64 bits, et X qui est 168 bits. Donc la taille des clés est 168 bits, donc 168, 0 et 1 qui se suivent, et la taille de chaque bloc de chiffrement est de 64, en fait. Et pour AES, la taille de chaque bloc message est 128. Et en fait, on a des libertés avec la clé. Elle peut être, il y a trois variants de AES qui sont ils sont pas la même fonction. Hein. Ils sont trois différentes fonctions AES et chacun d'elles prend une différente taille de clé. 128, 192 et 250. Donc le chiffrement par bloc, c'est une construction. C'est un algorithme, c'est une construction qui est plutôt bâtie en série. Donc on a notre message K, notre clé K, notre message M et notre chiffrement C. Et voilà comment ils se mêlent ensemble dans le chiffrement par bloc. Donc premièrement, ce qu'on fait, c'est que K, elle est d'une taille spécifiée. Disons ici que K, on est en train d'utiliser AES, K est donc 128 bits. Dans les chiffrements par bloc, il y a premièrement l'expansion de la clé. On utilise une méthode artificielle pour générer plusieurs clés de la première clé. Et on applique, donc on a K0, K1, on a généré des clés, jusqu'à KR, le nombre de rounds, cycles. Le nombre de cycles qu'on va appliquer notre fonction de chiffrement. Et donc chaque fonction appliquée dans ce cycle, dans le numéro de cycle, dans le chiffrement par bloc, va avoir une clé différente. Mais tous les clés, même s'ils sont différents, ils sont toujours générés de cette clé, donc ils ont une relation avec cette clé. Ce qui est important, je vais expliquer pourquoi après. Donc le message, il entre, et la clé, elle entre, et voici la fonction de cycle. Je suis en train de traduire en français, je ne sais pas si c'est exactement ça. En anglais, c'est round function, the function of this round. Donc on fait cette étape, cycle, ok, étape. Étape. Oui. Donc, mais c'est la même fonction. Hein. C'est la même fonction. Donc, le chiffrement par bloc, il fait une expansion de la clé pour qu'elle ait une clé différente, mais dérivée de cette clé. Il applique la même clé. Il applique chaque clé à la même fonction d'étape, round function. Donc, ici, on a K0 qui s'applique au message M. On va obtenir M1, le résultat de ça. On applique K1 sur M1. OK? Et M2, K2 sur M2, on la passe encore et encore et encore. K3 sur M3 jusqu'à le nombre d'étapes, ce qui est différent pour chaque spécification de chiffrement par bloc. Ça peut être 19 étapes, ça dépend sur le design. Pour chaque chiffrement par bloc, ils disent... Mais c'est un nombre fixe, hein. c'est pas que qu'il change ou quelque chose. Et après, finalement, quand on a décidé qu'on a fait toutes les étapes, on obtient C. Et ça, c'est la construction des chiffrements par bloc. Tous les chiffrements par bloc que j'ai vus, personnellement, étaient construits comme ça. Surtout DIS et AIS, ceux qui ont les deux chiffrements par bloc les plus importants et peut-être les seuls chiffrements par bloc importants dans le monde. Oui.
Une petite question, tu parles de message, est-ce que c'est le message en sa totalité ou juste par bloc ?
Non, c'est un bloc seulement. Donc chaque fois que je parle d'un message ici, dans cette session, c'est toujours un bloc seulement, pas le message dans sa totalité. Donc si en fait c'est un message qui est de 512 bytes ou bits, 512 bits, je suis en train de parler seulement, je vais le couper en parties et je vais prendre une partie de 128 bits et ça va être seulement ça. Et en fait, donc, la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un message qui est très grand, plus grand que 128 bits et je veux le chiffrer avec un chiffrement de bloc, qu'est-ce que je fais ? Et donc ça, ben, clairement, il y a des solutions pour ça, mais en fait, on va les discuter dans le cours prochain. C'est pas dans ce cours. Mais clairement, c'est un truc extrêmement important parce que clairement, on va pas utiliser une méthode de chiffrement qui peut seulement chiffrer des messages très petits. Mais oui, la méthode, on les appelle des modes d'opération. Il y a plusieurs solutions à ce problème. Comment utiliser un chiffrement de bloc pour chiffrer un message plus grand que la taille des blocs du chiffrement de blocs. Donc il y a par exemple, peut-être vous avez entendu de CBC mode ou ECB mode ou CTR mode. Ce sont ce genre de trucs. Peut-être vous avez vu un pingouin sur Wikipédia. C'est aussi... Mais on verra dans le... Il y aura beaucoup de pingouins dans mon cours prochain, on verra. C'est une blague entre gens qui ont fait la cryptographie. Okay. Parce que pour expliquer comment marchent les modes d'opération, il y a toujours un exemple qui est utilisé dans les cours, c'est avec un pingouin. Et donc, ça est devenu comme un mime. Genre. Okay. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la taille de bloc. Donc, ça, c'est 28 bits, disons. OK. Donc, notre but avec le chiffrement par bloc, c'est toujours de produire une fonction aléatoire. Comme le but, le but avec le masque jetable, avec le one-time pad et aussi avec le chiffrement de flux était de produire une fonction aléatoire et obtenir à la fin un chiffrement qui est indistinguable des données aléatoires avec aucun pattern dedans. Et on a expliqué pourquoi, pour éviter l'analyse linguistique, l'analyse pattern-based analysis et des trucs comme ça. Et c'est toujours notre but ici. On veut toujours, quand on obtient à la fin un truc qui sort du chiffrement par bloc, que ça soit indistinguable de données aléatoires. Donc ça, c'est toujours notre but. Ici, vous voyez, comme on a vu la dernière fois, c'est une fonction is qui prend une petite clé u, qui donne une grande clé aléatoire, pseudo-aléatoire v, okay, comme le chiffrement par chiffrement de flux. Ici, ben, x peut prendre, on peut avoir, intuitivement, on peut avoir un x qui prend deux paramètres, pas seulement un seul. Ça se voit, on peut inventer un x qui prend 10 paramètres et qui nous donne v, donc c'est pas un problème. Mais aussi, donc, c'est juste que la façon qu'on obtient une transformation et qu'on produit de l'output pseudo-aléatoire dans le chiffrement par bloc, elle est un peu différente que le chiffrement de flux. Et on appelle ça, pas une fonction aléatoire, mais une permutation aléatoire. Donc on n'est pas juste en train de prendre quelque chose et jeter des trucs aléatoires. En fait, maintenant, nous voulons spécifier une permutation, une transformation aléatoire. On n'est pas en train de prendre un truc et l'utiliser pour générer des trucs qui ne sont pas liés au premier truc, comme on est en train de faire dans le chiffrement de flux. Mais maintenant, nous allons prendre des données et les permuter, les transformer à des autres données. Mais il y a une relation mathématique entre les deux. Et on peut inverser cette transformation. Et c'est ça ce qu'on veut cette fois. Donc, voici, disons, une fonction, une permutation aléatoire. Et vous voyez, je l'ai déjà appelée E. Donc ça, c'est notre méthode de chiffrement. Elle est juste une permutation. Tous les blocs cipher sont des permutations aléatoires. Et donc, elle prend un K, une clé, disons. Ça, c'est l'espace de clé K. Et ça, c'est l'espace X. Et notez que je ne l'ai pas appelé ni M, ni C. Je l'ai appelé X. Parce qu'en fait, dans le chiffrement par bloc, M et C sont les mêmes. Et c'est le même espace, je voulais dire. le même espace M et C, c'est le même espace quand on le considère. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, tel qu'il existe une façon efficace d'évaluer cette permutation, on peut la programmer, on peut l'exécuter. C'est pas quelque chose de ridicule ou de très élaboré. Et il existe un algorithme d'inversion qui est aussi efficace. Donc, on peut prendre, disons que en fait, on prend le résultat de ce truc. Ça va être Y, disons, on peut mettre la clé et l'inverser pour obtenir le premier résultat. Et donc aussi, ce qui est très important, puisqu'on est en train d'utiliser le même espace, le même ensemble de possibilités, ok ? On est en train d'utiliser le même ensemble de possibilités pour le message et la clé. C'est très 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 important que les permutations aléatoires soient des fonctions qui sont one-to-one en anglais. En français, ça s'appelle une bijection, mais je n'aime pas ce mot parce que ça ne veut rien dire. En anglais, ça s'appelle one-to-one. Et je vais expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire one-to-one. Donc, disons que ça, c'est l'ensemble, l'espace de tous les éléments, de toutes les possibilités dans X, ok, grand X. Okay, on a des petits x partout, on a celui-là, celui-là, celui-là. Ce sont les x possibles dans le grand X. Okay? Donc notre fonction qui prend un k et un x de ces x, elle transforme chaque x à un seul autre x. Donc cette fonction, si on la donne 7x par exemple, elle va nous donner seulement celui-là. Elle ne le lie pas à deux autres x ou trois autres x. Pour chaque x, il y a une transformation qui le lie seulement à un autre x. Ce x n'est pas lié à celle-là, mais peut-être quelquefois il part à celle-là ou celle-là, non. En fait, c'est seulement un. Ça, c'est très important. Ce x est seulement lié à ce truc. Disons que k reste le même. Si k change, donc ces liaisons vont changer. C'est k qui spécifie les liaisons. Et ce x va devenir ce x. Et donc, x définit les ensembles, etc. Et k spécifie les paramètres de liaison. Et donc là, vous commencez à voir qu'en fait, c'est une méthode de chiffrement. Non ? Parce que x, ça, c'est tous les messages possibles. Et puisque k est en train de spécifier quel genre de transformation nous allons faire, k est en fait la clé de chiffrement qui spécifie comment ce message, est-ce qu'il est transformé en ce message ? Est-ce qu'il est transformé en ce message ? Est-ce qu'il va être transformé en ce message ? C'est k qui décide. Et donc, quand j'ai le bon k, la bonne clé, la transformation va me donner le bon message. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que j'ai un chiffrement qui marche. Parce que j'ai utilisé la bonne clé, j'ai appliqué la bonne transformation. Ça, si c'était le texte chiffré, ça m'a donné le bon texte clair. Parce que la clé k m'a donné le bon lien que je cherchais. Pour trouver à travers mon message chiffré, la bonne transformation jusqu'au message régulier, le message clair. Et c'est pour ça que c'est important que pour chaque message chiffré, il y a seulement un message clair possible. Et pour chaque message clair possible, il y a seulement un message clair, un message chiffré possible. Est-ce que tout va bien ? Super. Donc voilà, vous comprenez les chiffrements par bloc. C'est vraiment, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça la description théorique. Et c'est ça que théoriquement, dans la cryptographie, on est en train d'achever ce que c'est un chiffrement par bloc. Mais c'est juste que... après qu'on définit ces trucs, on prend une définition très élégante et on a bien défini le truc théoriquement. C'est juste arriver à inventer une fonction qui satisfait tous ces trucs d'une façon sûre et qui reste sûre dans le monde réel et qui satisfait toutes les propriétés de transformation, permutation aléatoire, etc. Et en fait, pas un problème facile. Et donc c'est là où on fait, où les ingénieurs et les spécificateurs essayent d'inventer ou de peut-être découvrir la permutation aléatoire parfaite qui satisfait toutes ses propriétés et on peut l'appliquer dans le monde réel et elle n'est pas cassable par des algorithmes où il n'y a pas des attaques dessus comme on a vu dans le chiffrement de flux. Et donc, AES et DES, ce sont des permutations aléatoires parce qu'ils ont ils sont des chiffrements par bloc. Donc on a AES qui prend une clé et un X, disons un message et qui génère un autre truc qui le lie dans l'espace des messages. K et X sont plutôt de la même taille. Si on est en train d'utiliser le variant AES 128, avec la clé de 128 bits. Et 3 DES, c'est un même truc, mais c'est seulement que la clé dans 3 DES est de 168 bits et X est de 64. C'est juste la taille des blocs est différente pour les blocs et pour les clés. Et aussi, fonctionnellement, toutes les permutations aléatoires sont aussi... fonctionnellement, ça veut dire pratiquement, peut-être pas théoriquement tous les temps, mais pratiquement toutes les permutations aléatoires sont aussi des fonctions aléatoires. Donc, parlons d'un exemple et parlons un peu de l'histoire des chiffrements de blocs. Donc, les chiffrements de blocs, en fait, ils ont été très, très, très importants pour la cryptographie moderne. Ils ont été la base que tous les cryptographes sont basés pour étudier comment la cryptographie moderne marche, comment le chiffrement marche, comment on peut le casser, pourquoi il est sûr, etc. Surtout, en fait, toute la génération de cryptographes qui sont maintenant des professeurs d'université, donc la génération juste avant moi, ils ont tous été entraînés par DAS. DAS a entraîné une génération entière de cryptographes qui l'ont vu en train d'être spécifiés, en train d'être analysé, en train d'être les gens qui essaient de le casser. On a inventé l'analyse différentielle, cryptanalyse différentielle et cryptanalyse linéaire juste pour essayer de casser DAS. Vraiment, DAS a établi une institution entière de sciences de cryptographie juste par son invention. Et donc, DAS était le premier standard américain pour la cryptographie. En 1970, les Américains, le gouvernement américain a constaté que, ok, pour le commerce, pour la sécurité, etc., on a besoin d'un standard de cryptographie qui est utilisé par tout le monde et on doit trouver ce standard. Donc, ils ont contacté IBM, ce qui était encore et toujours une, mais autant beaucoup plus, une très forte compagnie en informatique. Et IBM avait déjà inventé un système de chiffrement qui s'appelle Lucifer, qui avait une taille de clé de 128 bits, comme AES aujourd'hui, et une taille de message de 128 bits, comme AES aujourd'hui. OK ? En 1973, le Bureau national des standards américains a demandé des propositions, donc c'était 3 ans après l'invention de Lucifer. Le Bureau national des standards, qui n'existe plus en... Non, il existe encore. Mais maintenant, c'est le NIST qui s'occupe de la cryptographie, des standards cryptographiques. A demandé des propositions de standards nationaux pour le chiffrement de blocs. Et 3 ans plus tard, c'était plutôt une procédure de sélection bien secrétif en fait. Et on va voir, le procédure de sélection de AES, il était beaucoup plus ouvert. Beaucoup, beaucoup plus ouvert. Et beaucoup plus intéressant. Mais oui, DAS, un variant de Lucifer, était adopté comme le standard. Donc la taille des blocs a été réduite, probablement à cause de limitations de hardware au temps, mais aussi constater que la taille des clés a été réduite, bien, bien, bien réduite. Elle était 128 bits, la taille de la clé, et maintenant elle est seulement de 56 bits, ce qui est une réduction très grande, très très grande, extrêmement grande, énorme. Et ça, on va voir, ça a causé beaucoup de problèmes pour DAS. Mais en fait, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on a limité la taille... Oui. Ben, en fait, dans... Ben oui, réponse rapide. En fait, dans ce temps-ci, dans les années 70, 80 aussi, et peut-être 90 aussi, les premières années 90, le chiffrement, les technologies de chiffrement étaient classifiées par l'armée américaine comme des munitions. Et donc, si vous possédez un algorithme de chiffrement avec vous, sur un papier ou sur un ordinateur, vous avez enfin, c'est comme vous aviez un revolver. C'était le même truc. Et si vous voulez passer dans l'aéroport avec des méthodes, des papiers sur le chiffrement, vous devez les déclarer quand vous êtes en train de déclarer un revolver ou un couteau ou un katana. C'est le même truc. Et donc c'était vraiment très dangereux. Ils ont pensé que le chiffrement était très dangereux et on va le classifier comme munition. Il va y avoir des réglementations d'export et d'import, etc. Et en fait, la loi américaine disait autant que les chiffrements qui utilisaient une clé plus grande que 56 bits étaient illégaux, sauf pour avec permis. Donc, comme on a un permis de revolver, permis de firearm, on devait aussi avoir un permis pour avoir du chiffrement avec une grande clé. Et donc, pour les gens qui n'avaient pas le permis, et surtout c'était autant c'était juste les corporations, les banques, etc. Donc ils étaient juste en train d'utiliser DAS avec une clé de 56 bits parce que c'était la taille de clé qu'on pourrait utiliser sans permis. En fait, mais aussi ça, c'était pas la vraie taille de la clé. La sécurité ultime de DAS était en fait proche de 40 bits, pas de 56 bits à cause de quelques éléments de design, etc. Mais en tout cas, même si la clé était petite, en fait, comme on va voir, la façon principale que DAS a été cassée, même jusqu'à aujourd'hui, c'est juste à cause de la taille de clé qui était trop petite. Et les fondamentales de conception, les principes de conception de DAS, même aujourd'hui, ils sont très 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 bien conçus. Et DAS est toujours un chiffrement qui est considéré d'être conçu d'une façon très intelligente et pour le temps un génie complet. Ce que Horst Feistel a fait avec DAS, il était 10 ans, 15 ans plus avancé que toute l'industrie de la cryptographie dans le monde. Et c'est à cause de lui que les gens ont rattrapé, ont inventé l'analyse cryptanalyse linéaire différentielle et toutes les autres façons pour attaquer le chiffrement de blocs. Donc en fait, le chiffrement 3DES qu'on a vu avant, c'est juste DES trois fois. Et par résultat, c'est pas exactement DES trois fois, mais ça fait une expansion de DES pour le simple but d'avoir une clé plus grande, de 168 bits, ce qui est très très suffisant même aujourd'hui. Et même aujourd'hui, si vous voulez utiliser 3DES, c'est aussi sûr que AES. Il n'y a pas de différence pour les applications pratiques. Et donc, en 1997, DAS a été cassé par la recherche exhaustive, ce qui est une attaque. C'est un nom très fancy pour un truc très bidule, c'est juste la recherche exhaustive, ça veut dire qu'on a essayé toutes les clés. C'est brute force, genre on a l'espace des clés était trop petit, on a essayé toutes les clés. Donc ça veut dire qu'il y a seulement 2 à la puissance 56 clés. 2 à la puissance 56, vous pouvez aller sur Wolfram Alpha, mettre ce numéro et vous obtenez la taille de tout, le nombre des clés possibles pour DAS. Et pour un ordinateur rapide, ça, c'est un nombre très petit. Il peut essayer toutes les clés très rapidement et trouver la bonne clé. OK. Donc, mais maintenant, nous allons discuter DAS. Quelles sont les idées de base de DAS? Comment c'est conçu? Comment ça marche? Et pourquoi ça a été un chiffrement qui a tellement contribué à la compréhension du chiffrement? Donc, premièrement, on a dit, quand on a défini les permutations aléatoires, on a dit que c'est très important que les permutations aléatoires soient inversibles. Donc, le premier truc qu'on doit résoudre, c'est comment appliquer les fonctions de DAS, de chiffrement, d'une façon que le résultat soit reversible, inversible. Et donc, c'est pour ça que Horst Feistel a inventé le réseau qu'on appelle le réseau Feistel. Et c'est ce truc. Il est beaucoup moins intimidant qu'il a l'air. Et donc, c'est juste ce qu'on fait pour que le résultat soit inversible. Donc, premièrement, ça, c'est la méthode de chiffrement. Et chaque truc comme ça, c'est une étape. Étape, c'est une round. Et ça, c'est la round function, la fonction de l'étape, comme on a vu il y a quelques minutes. Et donc, ce qu'on fait dans un réseau Feistel, c'est qu'on prend l'input, on les divise en deux. Donc, on a ici, c'est left et right, gauche et droite. Et donc, ce qu'on fait, c'est que cette partie, elle passe sans être modifiée. Cette partie ici, elle va passer et être mise ici, sans être modifiée. Mais cette partie, elle va être exorée par cette partie après qu'elle passe par la fonction de l'étape. Vous avez compris? OK. Donc, cette partie, elle passe, elle reste ici. Mais cette partie, elle va être exorée avec ce input dans la fonction de l'étape. Elle est exorée et le résultat est mis ici. Et donc là, on va faire le même truc avec ces deux inputs et constater que maintenant la partie qui n'a pas été changée, la partie qui n'a pas été changée ici, qu'on l'a passée sans la changer, maintenant cette fois c'est son tour d'être changée. C'est elle qui va être exorée par cette partie qui passe dans la fonction et on obtient le résultat, on l'exore avec cette partie et donc ça change chaque fois.
Ce sont des
Oui.
c'est un caractère qui n'est pas utilisé dans le texte initial à crypter, il y aura un trou à la fin.
J'ai pas compris.
C'est que des one-to-one.
Oui.
Si on n'utilise pas.
Cette fonction est one-to-one.
Ah, d'accord.
Cette fonction, seulement.
Globalement, tout le système n'est pas one-to-one.
Je ne pense pas. C'est juste. Ça, c'est une construction. Est-ce que c'est tout le. Ce que j'essaye de penser, est-ce que si cette fonction est one-to-one. Je crois qu'il y a une sorte de preuve que si cette fonction est one-to-one et on le met dans un réseau Feistel, on obtient un résultat, un système qui est tout one-to-one. Le but, c'est que tout le système soit one-to-one. Ça, c'est sûr. C'est complètement sûr.
Si il est one-to-one, du coup, si on n'utilise pas un caractère dans le texte initial, il y aura un trou à la fin.
Un caractère dans le texte initial ?
Dans le texte initial, on n'utilise pas, par exemple, la lettre Z.
Ah non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est. Oui, oui mais c'est en fait une représentation binaire. Et c'est pas, ça ne dépend pas sur les caractères. Ce n'est pas qu'on est en train de prendre. On a l'espace de toutes les combinaisons binaires et on est en train de les lier. Ce n'est pas basé sur les caractères. Ok.
Ouais, mais attends, tu peux quand même répondre à sa question au sens plus large. Ce qui a l'air de le gêner, en fait, c'est que si dans l'espace d'origine, tu as un ensemble de combinaisons qui ne sont pas utilisées, comme on fait du one-to-one, dans l'espace de destination, on va avoir un ensemble de combinaisons qui ne seront pas utilisées.
Oui, oui.
Et sa question, c'était est-ce que c'est ça qui pose problème ?
Je ne suis pas grave.
Ah, ok. Oui, oui, absolument. Tu as raison. Oui. Si l'ensemble qu'on commence depuis a une combinaison qui n'apparaît pas dans l'ensemble, elle ne va pas apparaître dans la fin. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'en fait, on utilise le même ensemble pour les deux, l'ensemble X. Ce n'est pas comme le chiffrement de flux où on a deux ensembles, un ensemble pour les messages et un ensemble pour les chiffrements. Cette fois, on a défini le même ensemble pour les deux. Donc, on a fait... Voilà. Cet ensemble, l'ensemble des messages, X, est le même ensemble que l'ensemble des messages chiffrés, X, avec les mêmes éléments dedans. Donc si l'élément n'existe pas ici, l'élément ne va pas exister ici. Mais en fait, puisqu'on est en train d'utiliser l'univers de tous les nombres binaires, donc toutes les représentations de données possibles jusqu'à une taille certaine existent dans les deux ensembles. Oui.
Ouais, mais du coup, c'est quel genre de taille de bloc ?
Pour AES, pour DES, pour DES ?
Pour DES, pardon.
56 bits.
Donc tu as 56 bits, donc tu as 2 exposants 56.
48 bits.
48. 2 exposants 48 combinaisons. Et du coup, si tu regardes le message que tu obtiens, les combinaisons que tu as. Non, j'ai des bêtises en fait.
Je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut faire, à cause de cet aspect d'éjection, est-ce qu'on peut faire une analyse statistique comme on pouvait le faire avec un chiffrement
Je ne pense pas parce que, en fait, les ensembles qu'on utilise ici contiennent toutes les informations possibles mathématiquement, littéralement, toutes les informations possibles mathématiquement jusqu'à la taille 48 bits. Quand ça devient plus hors de cette taille, non, ce n'est pas dans l'ensemble. Mais en fait, on s'en fout parce que nous sommes en train de prendre un input de taille 48 bits. Et l'ensemble qu'on est en train de mapper, qu'on est en train de lier cet input à l'autre input, c'est de l'ensemble de toutes les informations possibles de taille X, de taille N, disons, à l'ensemble de toutes les informations possibles de la taille N. Et donc il n'y a pas un seul, littéralement, mathématiquement, logiquement, il n'y a pas une seule pièce d'information qui est de taille 48 bits ou moins, qui n'est pas présente. On a toutes les informations présentes. Toutes les combinaisons de 0 et de 1, et les 0 et les 1, le binaire, c'est fondamentalement la façon de décrire les informations la plus primitive possible. Il n'y a pas une façon plus primitive, plus basique de décrire une information que juste une collection de oui ou de non. Et c'est comme ça qu'en fait les ordinateurs marchent. Mais voilà. Donc en fait, juste pour être clair, en effet, j'ai fait venir avec moi un livre, juste pour que vous le voyez. Voilà, c'est un de mes livres favoris de tous les temps. C'est The Block Cipher Companion. C'est un livre qui a été publié récemment. Il n'est pas trop grand, 200 pages, c'est pas trop grand. Ça introduit et ça parle des chiffrements de blocs d'une façon très accessible, très intéressante, et ça répond à toutes vos questions. Vous pouvez l'acheter en ligne, je ne crois pas qu'il est très cher. Ben, c'est Springer, oui, mais c'est pas ça. Donc, voilà. Mais vraiment, ce livre, il est excellent. Il est en anglais, malheureusement, mais il est, je le suggère, lisez-le. Il est incroyable, je l'aime beaucoup. Très bon livre. J'ai juste fait venir avec moi pour que vous voyez que c'est un livre réel, vous pouvez le lire. Ok. En tout cas, oui. Et donc, ce truc, on l'utilise. On est en train, le fait que, avec chaque étape, on est en train de passer une partie de l'input sans la modifier, c'est ça ce qui nous permet d'inverser tout ce truc. Donc ça, c'est l'inversion. Enfin, on peut le faire sans cette inversion, on peut juste regarder. Disons que ici, on passe ça sans la modifier. Pour invertir, on peut réclamer ça et faire un XOR. L'XOR, c'est déjà une fonction invertible et on obtient ce qu'on avait avant. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire ici. Vous voyez ? C'est le même truc, mais c'est inversé. Et c'est le truc, que c'est la raison que le réseau Feistel est important, c'est que oui, en fait, si cette fonction est sûre, one-to-one, etc., permutation aléatoire, tout le truc va être une permutation aléatoire sûre. Et avec une distribution uniforme et one-to-one à la fin et tout. Et donc, voici, en fait, il y a un théorème. Est-ce qu'il y a une question ? Oui. C'est toujours la même chose. C'est juste les inputs qui passent à x qui changent. Les données qu'on donne à x, qu'on donne à la fonction f, je veux dire, la fonction f, les données qu'on donne à la fonction f, ils changent chaque fois qu'on exécute une étape, mais la fonction f, elle est toujours la même. Oui.
Et l'identité, en fait.
Non.
Parce que ce qu'on applique aux données, c'est pas la fonction f, c'est le bloc. Donc pour faire l'inversion, comme on va réappliquer l'XOR, oui, la même valeur, on retient. C'est l'XOR qui, quand on la réapplique, redonne le résultat.
Oui, mais ça passe avant l'XOR, ça passe par un f.
Oui, mais c'est pas les données qu'on passe dans le f. C'est des données L0, on le passe à un XOR qui donne L1. On le passe pas à F.
Au premier round du chiffrement, tu vas retourner sur le même masque que le dernier round du chiffrement. Donc tu vas XOR X par X, et du coup tu vas retourner sur ton...
Par contre, F, il prend en paramètre la clé.
Pardon ?
Par contre, F prend en paramètre la clé.
La clé et l'input.
Et l'input.
Oui, absolument, chaque fois. On va la faire illustrer un peu plus tard. Mais en tout cas, il existe un théorème de sécurité des réseaux Feistel qui a été défini par Ruby et Lakoff en 1985, que si une fonction, pas d'une permutation aléatoire sûre, si ce truc est tout simplement une fonction aléatoire sûre et qui est utilisée pour 3 cycles Feistel successifs avec 3 clés indépendantes, et ce que ça veut dire clé indépendante, c'est que les 3 clés ne sont pas dérivées de la même clé, ne sont pas liées mathématiquement l'un à l'autre, il n'y a pas une fonction qui les lie, ils sont indépendantes, ils n'ont rien à faire avec l'autre. Et une clé indépendante, ça peut en fait être une clé qu'on divise en 3 parties, ça c'est une clé indépendante. Parce que les 3 parties, quand on les divise en 3 parties, il n'y a pas une notion mathématique qui les lie. On l'a divisée. Mais autre que ça, si on prend une clé par exemple, et on fait une fonction mathématique, on le divise par un numéro, je sais pas. Ça, il y a une relation mathématique, et donc ce n'est pas des clés indépendantes. Avec des 3 clés indépendantes, on obtient... Et donc c'est ça le truc. Qui m'a demandé la question sur... est-ce que c'était une permutation ? C'est toi, je crois. Oui, oui. Et donc voilà, c'est ça le truc que je devais m'en souvenir. C'est que si on prend... Ça, en fait, c'est une fonction aléatoire sûre. Et quand on le met... dans un réseau Feistel, à cause de cette preuve, on obtient une permutation aléatoire qui est invertible. Donc on a construit une permutation aléatoire invertible parce que c'est un requirement, on doit avoir de l'inversion pour que ce soit une permutation aléatoire à travers une fonction aléatoire sûre par utilisant le réseau de Feistel, ce qui est le building block, le truc le plus principal dans DES. Et donc revoyons ce truc qu'on a vu avant. Donc voici la clé, le message et le message chiffré. Ah donc c'est 64 bits la taille de message dans DES, excuse-moi. Ah oui, c'est 64 bits, absolument. Et donc, on fait l'expansion des clés, on fait toutes les clés, voilà, on a fait un clé. Ça, est-ce que ce sont des clés indépendantes ?
Oui.
Non, ils ne sont pas des clés indépendantes, parce qu'on les, on est en train de les dériver de la première clé d'une façon arithmétique, mathématique. Ce n'est pas indépendant. Et donc, on fait ici le round function, la fonction. Ici, ça, c'est la fonction aléatoire sûre. On la passe dans un réseau Feistel et on obtient le résultat. Et donc ce graphisme, ce que vous avez vu dans le commencement de ce cours, c'est le même. Et vous voyez maintenant que c'était tout ce temps juste un réseau Feistel. Et le réseau Feistel, c'est ce truc. On peut le présenter comme ça. Oui.
Une question. Comment on arrive à faire dériver la clé, en fait ? C'est par la fonction
Ici, non, non, c'est juste il y a une fonction particulière que je ne vais pas expliquer comment elle marche. Juste, on fait des trucs et on obtient de cette clé plusieurs clés.
Et du coup, c'est parce qu'il y a un lien entre les clés, on ne se contente pas de trois états.
Je ne sais pas en fait. J'ai pas regardé la preuve en proche. Je suis pas sûr. Du coup, il y a juste pour être très exact, ça c'est Dess, mais juste que Dess aussi a une fonction ici qui s'appelle pi et l'inverse de pi. C'est une permutation initiale que Dest doit faire. Elle ne donne rien à la sécurité. Elle existe juste pour des compatibilités de hardware. C'est juste ça, c'est juste pour décrire Dest d'une façon complète. Et donc, peut-être vous vous demandez quelle est la fonction quelle est la grande fonction d'étape que Dest fait dans chaque étape. Ben, on va la regarder maintenant. Donc, elle prend un bloc. Un message M de 32 bits. Le message est divisé en fait à cause d'une permutation interne. Mais disons que c'est un message de 32 bits et un cas de 48 bits aussi. La clé est aussi changée un peu et elle est réduite pour chaque round et changée pour chaque round. Et donc ici, premièrement, on va faire une expansion artificielle sur le message pour qu'il y ait une taille de 48 bits. Et ça, c'est pas important de comprendre pourquoi. C'est juste que c'est là. Et on va, puisque maintenant c'est la taille de la clé, on peut les exorer ensemble. Pour chaque bit dans le message, il y a une bit dans la clé, et on exore chaque bit avec dans le message avec son bit respectif dans la clé. Et on obtient 48 nombres binaires exorés. Et donc voilà. Donc la première étape de cette fonction est très simple. On prend le message, on le fait aussi grand que la clé, on l'exore avec la clé. Et après ça, on divise le résultat de 48 bits en 6 bits, 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 6 bits. On le divise. Et après ça, on le passe dans des fonctions de substitution. Substitution, 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 substitution. Ça, c'est 8 fonctions de substitution différentes. Et finalement, ces fonctions de substitution, ce qu'ils font, en fait, ils font un truc très simple et qui paraît, en fait, de ne pas donner de la sécurité du tout. Ce qu'ils font, c'est juste qu'ils prennent 6 bits et c'est un tableau, c'est un lookup table, c'est un tableau de recherche. Pour si les 6 bits sont 0, 0, 0, 1, 1, 1, ils le remplacent avec des autres 4 bits qui sont 1, 1, 0, 0. Et c'est juste spécifié, genre spécifié, c'est pas, il n'y a pas une formule mathématique. C'est spécifié dans un table. L'algorithme voit, ok, ben ici j'ai 6 bits qui sont 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et ma table dit que je dois les remplacer avec 1, 1, 1, 1. Ok ? Ou 1, 1, 0, 0. Ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est juste des lookup tables qui prennent des valeurs et ils sont définis, ils ne changent pas, jamais. Donc, ils prennent une valeur et tout le monde connaît que si le lookup table prend cette valeur, elle le remplace par une autre valeur et il n'y a pas de magie dedans. Oui.
Il y a moins de bits en sortie quand même.
Oui, oui. Ils prennent 6. Oups. Excuse-moi.
C'est-à-dire que pour deux combinaisons, on peut avoir la même sortie.
Oui, oui, oui.
Une perte de formation.
Oui, oui, oui. Ils prennent 6 bits et ils sortent avec 4 bits.
Je sais qu'on
ne
perd pas l'information, mais pourquoi on
ne
perd pas
Parce qu'il y a une... Parce que le message original était 32 bits.
Ouais, mais comment on sait que les bits qu'on supprime, c'est ceux qui n'étaient pas gênants?
On l'a conçu d'une manière pour éviter ça, clairement. Mais c'est juste que parce que le message original était de 32 bits, on l'a juste fait une expansion ici pour qu'il soit la même taille que la clé. On peut maintenant faire un XOR avec la clé, parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas faire un XOR avec la clé. Et puis ici, on l'a réduit pour qu'il soit encore 32 bits comme il était avant. Et donc en fait, puisque la réduction ici est faite d'une manière qu'on ne perd pas d'information, je ne suis pas complètement certain comment on l'a fait, mais clairement, il y a une méthode de la fin, on ne perd pas d'information et c'est toujours la même taille.
Pourquoi ils ont fait ça? Je ne peux pas comprendre la logique.
Ok. Pourquoi ils ont fait ça? Cette étape, tu veux dire?
Ouais.
Ok, bonne question. Pourquoi ils ont fait ça? Ça, en fait, c'est l'étape la plus géniale dans tout DES. Ce truc. Un lookup table qui, en fait, ce truc qui paraît, et moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai rien compris. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi on est en train de prendre 6 bits, les mettre dans un lookup table qui juste dit, bah, ok, ça c'est 1, 1, 1, 0, 0, 0, je vais le remplacer. Mon lookup table, ça dit que ça doit se remplacer avec 0, 0, 1, 0. Et le jette. Et tout le monde connaît, les valeurs de remplacement ne sont pas secrets. Tout le monde connaît qu'est-ce qui se passe. Tout le monde connaît que si ici c'est la valeur telle, ça va être la valeur telle. Pourquoi ce truc? Pourquoi? Et surtout, pourquoi il est tellement important? Et en fait, c'est le truc le plus difficile. Le truc le plus incroyable de DES, c'est en fait ce truc. Et en fait, le truc le plus cool dans le livre, c'est qu'il explique pourquoi ce truc est très important.
Je ne peux pas faire
Oui! Il n'y a pas. Donc, la raison que c'est très important, on va voir pourquoi.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Donc, comme on a dit, la boîte. On appelle ça des. Ben, je vais expliquer. On appelle ça un S-box, substitution box, une boîte de substitution. Elle fait de substitution. Elle se charge de substituer l'input. Donc, quand elle prend l'input, elle le substitue pour la valeur la plus indépendante mathématiquement possible. Si par exemple elle prend la valeur 1, elle ne va pas le substituer avec la valeur 2, ou si elle prend la valeur 2, elle ne va pas le substituer avec la valeur 3, parce que ça c'est une substitution qui illustre une relation mathématique entre toutes les substitutions. Ok? La raison que ça existe, ce truc, ça substitue chaque input avec un output qui n'a pas de relation mathématique avec. Il n'y a pas une transformation mathématique, arithmétique, linéaire, affine qui donne ce truc. C'est le truc le plus séparé, rien du tout à faire avec possible. Et c'est très très important. Donc voici un exemple de S-box de DES. Comme on voit, comme vous voyez, c'est juste que ça prend 1, 1, 0, 1. En fait, ça prend. Donc ça, c'est les outer bits. Donc ça, c'est les bits qui sont sur chaque côté. Donc en fait, ce numéro, ça va être 0. 1, 1, 0, 1, et puis 1. Ça, c'est les middle bits, les bits qui sont au milieu. Et ça, c'est celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Et ça le remplace avec ce truc. Et c'est juste, voilà, comme vous voyez, c'est spécifié. Et donc, c'est juste la méthode que cette table a été conçue, c'est que tous les remplacements, tous les façons de substituer, ils tous, on obtient un résultat uniformément distribué. Et chaque fois, il n'y a pas de relation mathématique avec le résultat qui venait avant. Oui.
Il substitue que les lignes du milieu.
Non, il substitue. Non, il substitue tout. Non, mais il substitue. Il les substitue tous pour ce résultat. C'est juste que cette façon, c'est pour savoir quel est le résultat qu'on doit substituer avec. Donc, ce numéro ici, en fait, on est en train de substituer le numéro 0, 1, 1, 0, 1, 1. Parce que ça, c'est les bits sur la gauche et la droite du numéro qu'on est en train d'entrer. Et ça, c'est les bits au milieu. Je sais que c'est une représentation très étrange.
Oui, mais au final, les bits à l'extérieur, est-ce qu'ils sont changés?
Pardon?
Les bits à l'extérieur, est-ce qu'ils sont changés?
On ne regarde pas ce qu'on garde à la fin. On passe de 6 à 4 bits. Et le tableau m'a dit comment on passe de 6 à 4.
Ah, ok. Donc, on supprime les bits de l'extérieur.
Mais on supprime rien. On substitue tout le truc. Tout le truc, on le substitue. Il n'y a pas de supprimer. On n'est pas en train de supprimer. On est en train de prendre un input de 6 bits et trouver dans le tableau les 4 bits qui matchent d'une façon très arbitraire. Il n'y a pas de substitution. Mais le but, en fait, c'est de ne pas avoir un traitement mathématique de ces 6 bits. C'est juste les substituer avec un input. Et c'est Mais c'est pour ça que c'est une substitution. C'est pour ça qu'on est en train d'utiliser un tableau. Parce que c'est impossible de faire cette transformation mathématiquement. Et c'est ça le but. Que cette transformation ne soit impossible de décrire et d'exécuter d'une façon qui est mathématiquement intuitive. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de la mettre dans un tableau comme un truc préhistorique. Et c'est ça le but. Ça doit être idiot, la façon d'exécuter le truc. Il n'y a pas, on veut qu'il n'y a pas de façon élégante de l'exécuter. Ou de,
j'espère que vous évitez toutes les combinaisons à 4 bits, juste en sur l'ensemble. Tu vois, on va vers l'espace de 4 bits.
Oui.
Est-ce que toutes les combinaisons à 4 bits sont utilisées?
Oui. Uniformément aussi.
Uniformément.
Oui. Juste pour être sûr, autorité, c'est ce droit ou ce gauche?
Ça, c'est... Ok, donc je sais que c'est une représentation très... C'est pas moi qui l'ai inventé, mais... Celui-là, c'est à gauche, le 0, et puis tu as 1, 1, 0, 1, et puis tu as le 1 à la fin. Pardon. Au nom des créateurs de DS, je m'excuse.
C'est pas... D'accord.
Donc voilà.
T'aurais dû montrer ça dès le début.
Oui, mais j'oublie les slides que j'ai fait, donc je... Voilà. Ben oui, ben voilà. Vous voyez, 1-1-0-1, c'est au milieu ici, 1-0-1, et puis vous avez le 0 qui est là, et le 1 qui est là, et ça sera pour maintenant. Et donc, oui, on a dit que l'importance des S-box, c'est parce que une fonction DES sans S-box est simplement une fonction de permutation linéaire. Et puisque tout le DES, toute la transformation DES devient possible à décrire d'une façon linéaire, on peut en fait déviser une matrice qui peut nous aider à prédire la relation entre chaque input et output DES, de façon que si on a plusieurs outputs sur la même clé, on peut utiliser tous ces inputs et tous ces outputs sur la même clé pour prédire une notion de translation pour tout l'espace de fonctions qui font ça, en effet parce que leur base sera linéaire. Est-ce que vous comprenez ? Donc si par exemple DES n'avait pas de S-box, okay, et nous avions 10 messages chiffrés sous la même clé, okay, ils sont chiffrés sous la même clé, il n'y a pas de S-box, ces 10 messages sont tous le produit de la même transformation, même permutation linéaire, et donc on peut détecter un pattern de transformation dans ces 10 messages, et basant sur ça, on peut en fait mapper tous les autres chiffrements. Tous les autres permutations. Parce que on peut décrire ce qu'on a fait d'une façon linéaire. On peut sauter à une autre description. Oui.
C'est la fonction expand qui transforme le message de 32 bits en message de 48 bits.
Oui.
C'est quoi comme fonction?
Aucune idée. Je n'ai pas regardé dedans, mais c'est juste une fonction qui prend 32 bits, elle multiplie quelques bits, elle change quelques bits pour que ça soit juste un résultat plus grand. Ben oui, elle est linéaire. Oui, elle doit être linéaire, oui.
Il faut que ça
parle vraiment. Oui, le XOR est une fonction linéaire. Toutes les fonctions sont linéaires, sauf le S-box. Et c'est pour ça qu'il existe. Même le XOR, il est linéaire. Absolument. Oui.
Il faut que ça parle vraiment complet au S-box, du coup, cette fonction. Pour être sûr qu'on ne perd pas d'informations.
J'ai pas entendu.
Pour être sûr qu'on ne va pas perdre d'informations.
Oui.
Passage de 48 bits à 32 bits. Pour être sûr, oui, de supprimer juste les bons bits. Il faut que cette fonction de padding soit parfaitement complète au tableau.
Ben oui, oui, il doit y avoir une relation, oui, absolument. Oui.
Mais peu importe, la fonction f ne perd jamais l'information. Que la fonction f soit égale à 0 tout le temps, on ne perd pas l'information.
Que la fonction f soit égale à...
Que fi soit égale à 0 tout le temps, vu qu'on fait un XOR, on ne perd jamais l'information.
Quand on, quand on fait un XOR, non, on ne perd pas d'information.
Mais du coup peu importe que soit la fonction f, on ne perd jamais l'information.
Non, mais si la fonction f prend un input et te donne 0 chaque fois, tu vas perdre de l'information.
Bon, on applique la fonction f on va dire, à la partie r, là, et après on fait un XOR avec f. Enfin, il faut aller de nouveau dans la zone festelle.
Oui.
Mais si f, voilà, permanence est égale à 0,
on obtient. Qu'est-ce qui est égal à 0?
On suppose que par exemple f, elle fasse n'importe quoi, et au final, à chaque fois, elle soit égale à 0. Et on touche même pas, on prend même pas en compte R qu'on prend à chaque fois, donc si F, okay, est tout le temps égal à 0, on perd pas d'information. Donc je vais pas dire.
Mais pourquoi ferais-tu ça?
De quoi?
Ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la fonction F, on perd pas l'information parce qu'on s'en tient juste en clé.
Parce que là, depuis tout à l'heure, il y a des questions sur oui, mais si on fait ça, on perd l'information, mais de manière générale, peu importe F, on ne perd jamais l'information.
Mais ça dépend, mais en fait, à la fin, tu peux avoir un résultat qui n'est. Juste, il n'y a pas une inversion qui te donne le premier résultat. Si la fonction. C'est juste que. Si la fonction f te donnait juste des zéros chaque fois, tu vas pas pouvoir. Je crois pas que tu vas pouvoir appliquer le truc d'une façon si, que.
On peut
oui, absolument, peut-être, en fait, tu as raison.
Oui, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme f, il s'en sert comme pour générer une clé, en fait. Tu peux voir f comme une clé, tu peux voir avec 4 zéros, et comme tu appliques le truc inverse, peut-être que tu récupères. Toi, intuitivement, je pensais ça qui était
beaucoup. Bah oui, ok. Peut-être, oui.
Et du coup, tu vois cette idée de. Il faut juste que du coup, le résultat de f soit.
Oui, oui, ah, non, oui. Le but de F, c'est d'avoir une distribution aléatoire uniforme.
Du coup, c'est l'institution, on crée une clé à partir des données.
Mais si en fait ça donne de l'output qui n'est pas uniforme, comme juste des zéros chaque fois, je crois que certainement ça va proposer des failles. Mais oui, en fait, si c'était seulement la question si on perd de l'information ou pas, je crois que non, on ne perd pas. Oui. Excuse-moi, j'ai mal compris. Les fonctions linéaires peuvent être prédites, réversées et transformées d'une façon algorithmique, c'est ça ce qu'on ne veut pas. Et donc voici un exemple plutôt plus illustratif à ce que fait le InSBox. Donc par exemple, est-ce que ça, c'est une bonne SBox qui transforme ce chat à ce chat ? C'est pas un bon SBox parce qu'on peut raisonnablement décrire une fonction mathématique qui, si on veut vraiment aller dans le machine learning genre, en force, on peut décrire une façon mathématique qui prend ce chat, et puis ce chat, il y a beaucoup de relations entre eux. Premièrement, ils sont tous les deux des chats, et deuxièmement, il y a la même couleur de la peau, et ils sont plutôt sympas tous les deux, et je sais pas. Et ça, c'est un mauvais S-box. Mais si on avait un S-box qui prenait un chat et le transformait en ça. Donc, ça, c'est un bon S-box parce qu'il n'y a rien dans le monde entier qui sort une relation entre ce truc et ce truc. Et donc, c'est ça le S-box. C'est en fait faire une transformation qui ne peut pas se faire mathématiquement. La transformation la plus étrange, la plus non descriptible mathématiquement possible. Et donc, en fait, les critères de l'S-box, les critères de la conception de l'S-box de DES, ont été seulement décrits en 1999, publiés officiellement par les inventeurs de AES en 1999. Voici, j'ai dû les trouver dans un truc très vieux de, je sais pas, un paper repository. C'est en fait un peu difficile à trouver. Et voici, on peut voir que aucune transformation doit être proche. Donc toutes les transformations de chaque valeur 6 bits à chaque valeur 4 bits ne doivent pas être proches, et proche c'est défini plus tard. En fait c'est ici. That is, if we select any output bit position and any subset of these 6 input bit positions, the fraction of inputs for which this output bit equals the XOR of these input bits should not be close to 0 or 1, but rather should be near a half. Ah, uniforme! Encore, c'est comme la probabilité qu'on a discuté la session avant. Et donc, oui, il y a des autres spécifications qui sont plus ou moins basées sur ça. En fait, c'est juste des autres manières à être plus exactes. La distribution doit être uniforme et des autres critères qui sont liés à tous ces trucs. Et en effet, les critères de comment on a décrit l'S-box indiquent que les auteurs connaissaient déjà les techniques de cryptanalyse pas encore inventées. Donc, en fait, cet S-box était conçu avec ces trucs qui aussi, à cause des autres propriétés, gardait contre la cryptanalyse différentielle qui a été inventée à cause des DES 10 ans plus tard. Ils ont dit quand c'était inventé, oui, on connaît déjà la cryptanalyse différentielle, oui, on a déjà gardé contre ça. Et voilà, c'est pas cassable. Et c'est en fait pour cette raison qu'ils ont publié le design specification des S-Box, pour prouver que voici le document qu'on a utilisé pour concevoir les S-Box des DES. Et voilà, on connaissait déjà votre analyse, cryptanalyse différentielle. Et voilà, c'est très incroyable ce truc. Oui.
Je te pose sur la cryptanalyse différentielle.
Il va y avoir toute une session sur ça. Donc, tu peux venir, c'est dans deux semaines. C'est pas la prochaine, mais celle d'après. C'est une session complète sur l'analyse linéaire et différentielle. Donc, mais on va pas parler de l'analyse linéaire et différentielle maintenant. On va parler de la recherche exhaustive, que comme j'ai dit avant, c'est juste un nom super fancy pour se sentir comme académique très accompli, pour dire on cherche tous les clés possibles. Ça me gêne tellement qu'on utilise des noms comme ça. Mais le but, c'est que sachant quelque part deux inputs et outputs, on ne sait pas comment utiliser un projecteur. Et donc, excusez-moi. Sachant quelque part deux inputs et outputs, par exemple, on a quelques messages, un nombre de messages i et un nombre de chiffrements i aussi. On a, disons que i est égal à 5, on a 5 messages chiffrés et 5 messages clairs. Trouver la clé K. C'est ça ce qu'on veut faire. Okay, on a déjà quelques messages chiffrés et leur texte clair. On a les deux. On va trouver K. Donc, si on a vraiment des messages clairs et les messages chiffrés, tout ce qu'on doit faire, c'est juste essayer toutes les clés jusqu'à ce qu'on trouve une clé qui, en fait, nous donne pour le message clair le message chiffré. Donc, voilà. Donc, si bien c'est vraiment un chiffrement idéal, une permutation aléatoire idéale, il doit exister une clé dans l'espace de taille 2 pouvoir 56 qui permet l'inversion d'une permutation aléatoire qui a produit un chiffrement. Et ce que ça veut dire, c'est juste on essaye tous les pouvoir 56 que les possibles. Et donc, c'est pour ça qu'il a été publié le DS Challenge, ce qui était que... Ça, c'était le texte du challenge. Ça a été publié il y a beaucoup d'années. Donc, c'est plusieurs blocs. Vous voyez, ça, c'est le premier bloc. On a publié 4 blocs. Et les premiers 3 blocs ont été connus. Donc, on connaissait le chiffrement pour les 4 blocs, mais on connaissait aussi le texte clair des premiers 3 blocs, qui était « The unknown message is ». Et on devait juste trouver la clé qui donnait le même résultat, qui chiffrait ce message à ce message, ce message à ce message, ce message à ce message, et aussi qui déchiffrait ce message à ce message. Et donc, c'est juste qu'on avait des textes clairs et des textes chiffrés, et on devait trouver la clé qui déchiffre tous et aussi le texte chiffré qu'on n'en avait pas en clair. Donc en 1997, c'était craqué en 3 mois. On a pu le craquer en 3 mois. À cause de juste, on a obtenu les ressources computationnelles, les ressources calculatoires pour pouvoir calculer toutes les clés possibles. Et puis l'Electronic Frontier Foundation, un an plus tard, a créé le Deep Crack, qui est une machine qui a coûté 250 000 dollars, mais qui peut craquer des clés DES en 3 jours. Et plus récemment, il y a aussi Copacabana, que je n'ai pas mentionné, je crois. Oui, il y a aussi, plus récemment, dans les ans 2000-2006, je crois, Copacabana, qui le craque en une semaine, mais au lieu de coûter 250 000 dollars à bâtir, la machine a seulement coûté 10 000 dollars. Donc, et maintenant, aujourd'hui, sur notre ordinateur d'aujourd'hui, c'est clairement, même je crois que si vous avez un ordinateur puissant à la maison, vous pouvez craquer vous-même, après quelques temps. Et donc, comment protéger le DES contre le fait que, à cause des limitations d'export de munitions américains, la taille des clés était très petite. Et donc, on fait juste que la clé soit plus grande. C'est très simple comme truc. Et en fait, les lois d'export américains ont causé beaucoup de problèmes avec la crypto, autre que le fait que DES a été cassé à cause de ça. En effet, récemment, avez-vous entendu de la faille Freak dans les nouvelles? Et donc, c'était le même truc. C'est juste qu'à cause des notions d'export américains dans les années 90, OpenSSL, la librairie qui est utilisée pour faire les connexions HTTPS dans les ordinateurs et les serveurs et les clients, avait quelques options qui s'appelaient Export RSA, qui étaient des versions de RSA, de la fonction de chiffrement et d'échange de clés publiques qui s'appelle RSA. Et on a fait des versions de cette fonction qui étaient compatibles avec les lois d'export américains du temps. Et parce que ces fonctions sont restées dans le code de OpenSSL, même beaucoup plus après que... Et ils ont perdu toute leur sûreté. Ce que Freak a fait, en large partie, mais pas complètement, ce que ça a pu abuser, c'est ce code dormant dans OpenSSL pour forcer des serveurs et des clients à utiliser le chiffrement export RSA, ce qui est le RSA qui est compatible avec les réglementations d'import et d'export du temps, pour forcer les clients, les serveurs à utiliser ces chiffrements et puis les casser. C'est comme ça que ça a marché. Donc les lois de réglementation de crypto ont beaucoup causé de problèmes en fait. Historiquement, c'est un grand sujet de débat dans le monde de la cryptographie. Beaucoup de gens parlent, ils ne veulent pas qu'il y ait de nouveau des lois de réglementation parce que historiquement, ça a beaucoup causé des problèmes. Mais en tout cas, donc, il y a une méthode, triple DES, on fait DES trois fois avec trois clés, et voilà. Et donc, on a dit que ça, c'est un chiffrement par bloc. Ok, on a déjà décrit ça. Et donc, on peut dire, au lieu de E, on a une permutation 3E qui prend trois clés et qui nous donne... ici, la notation peut être mieux, je crois. Je vais la réparer avant de la mettre en ligne. On prend K1, K2, K3 et M, et ça nous donne... c'est le même truc si on faisait un chiffrement avec K1, 2, un déchiffrement avec K2, 2, le chiffrement avec K3 de M. Donc, on va faire ça. Donc, premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on chiffre le message avec la troisième clé, mais on déchiffre le résultat avec la deuxième clé. Oui. Oui, mais c'est inversé. Et avec un autre, c'est juste pour imposer des layers de... Oui, c'est juste, on utilise un déchiffrement avec une clé indépendante pour que le one-to-one mapping soit complètement pallié et différent. Et tout. Et en fait, il y a une autre raison pourquoi on fait un déchiffrement ici, que je vais expliquer plus tard. Donc il y a une raison très importante que ça, l'opération est inversée et pas la même. Et en fait, c'est juste important de noter que cette opération ne va pas déchiffrer ça. Ça ne va pas nous donner M, parce que la clé qu'on utilise est différente. Ok ? Donc, on déchiffre avec une autre clé, et on la rechiffre avec une autre clé. Et donc ici, les trois clés sont complètement indépendantes. Ils ne sont pas basés sur la même clé. Je répète qu'une clé peut être indépendante si on prend une clé et on la divise en trois parties. Juste, je prends une clé qui est mon nom et Nadim. Je la divise en trois parties. C'est une clé toujours indépendante dans les notions de la théorie de l'information. Parce qu'il n'y a pas une liaison mathématique. Il y a peut-être une liaison linguistique, et ça, c'est un problème. Mais mathématiquement, c'est toujours indépendant. Il n'y a pas une liaison de l'information mathématique. En tout cas, c'est trois fois moins rapide, mais puisqu'on a trois clés de 56 bits, on obtient un taille de clé qui est 56 fois 3, ce qui est 168 bits. Donc, une question qui se pose, il y a une attaque connue en deux au pouvoir. Une question qui se pose, c'est pourquoi pas double DES ? Ça, la personne qui a compris ce truc. Okay. Donc, pourquoi pas juste chiffrer deux fois ? On fait un chiffrement et puis on fait un autre chiffrement. Pourquoi ne pas faire ce truc ? Ça paraît d'être plus simple. Au lieu d'être trois fois moins rapide, c'est seulement deux fois moins rapide. Et toujours, ça donne une augmentation suffisante de la taille de clé, supposons. Pourquoi pas le faire ? Pourquoi pas faire, on a M, on le chiffre avec une clé, et on chiffre, on obtient M', et le résultat, M', on le chiffre encore avec une autre clé indépendante, et on obtient, ça paraît simple, non ? Pourquoi ne pas faire ça ? Pas exactement, mais proche. C'est pas exactement un seul chiffrement, parce que notez que les clés sont différentes, donc le mapping, la bijection est différente. Donc, question. Quelle est la taille de l'espace des clés avec, disons que l'on va l'appeler 2DES. Donc, souvenez-vous que DES, l'espace des clés, était de 56 bits, et 3DES, c'était 168 bits. Quel est l'espace de clés de ce truc ? Cette description, ici. En effet, non. Ce n'est pas. La taille effective de l'espace de clé ici, en fait, c'est seulement 2 à 57. Au lieu de faire une augmentation exponentielle de la taille de clé, on a fait une seule augmentation linéaire, on l'a doublé seulement. 2 à 57, c'est le double de 2 à 56. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut deviner pourquoi on a obtenu ce résultat? Et c'est pour ça, en fait, que c'est ça la raison qu'on n'utilise pas de DAS. Mais pourquoi? Donc, constatez qu'il y a une liaison ici très dangereuse. C'est que le chiffrement de M avec K1 est égal au déchiffrement de C avec K2. Ce résultat au milieu, on peut l'attaquer de cette direction, on peut l'attaquer de cette direction. Et donc, tout simplement, ce qu'on doit faire pour casser ce chiffrement, c'est que, premièrement, on calcule 2 à la puissance 56, donc on casse DES une fois. Okay, on calcule tous les résultats de ce chiffrement, okay, avec toutes les clés possibles, et on garde toutes nos calculations dans une grosse table. On les sauvegarde sur notre hard disk, okay, on les met quelque part, toutes les calculations qu'on a fait ici pour obtenir ce résultat, avec toutes les clés possibles. Ok ? Et donc, puisque on connaît ce truc maintenant, on sait que on doit seulement invertir ce truc par faire. Et chaque fois qu'on essaie une inversion, on fait un lookup dans notre table pour voir si on a un résultat qui tombe dessus. Et si on a le même résultat, on sait qu'on a obtenu une clé qui est la même clé. Et donc, c'est juste qu'on bâtit une table avec la première opération, on compare les résultats de la deuxième opération avec les résultats qu'on a dans la première table. Et en fait, effectivement, pour casser le truc, pratiquement, c'est juste qu'on a doublé le nombre des opérations nécessaires. Mais on ne l'a pas. Donc, 2 à la puissance 168, c'est en fait pas seulement 3 fois plus sûr, c'est pas 3 fois la taille des clés. En fait, c'est. 2 à la puissance 168 divisé par 2 à la puissance 56 fois, ce qui est
2 à la puissance 112 fois.
Oui, 112. Donc en fait, quand on a ici le nombre de clés additionnelles d'ici à d'ici n'est pas seulement 3 fois plus de clés, c'est 2 à la puissance 112 fois plus de clés. C'est un nombre énorme plus de clés. Et c'est pour ça que c'est toujours sûr. 3D, c'est toujours sûr aujourd'hui. On peut l'utiliser aujourd'hui si on veut. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent que AES. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Et ici, on a seulement doublé la taille des clés. Et donc, l'analyse exhaustive et ces trucs, il y a aussi des attaques pratiques qui ne sont pas théoriques. Ici, ce n'est pas une opération de chiffrement. C'est une opération de déchiffrement avec une clé différente.
Et du coup, on ne peut pas tester tous les...
Il
n'y
a pas de M intermédiaire. De quoi ? Il n'y a pas de M intermédiaire. Tu ne peux pas faire
oui,
des simples.
Oui, exactement.
Parce qu'il y en a... C'est une boîte dans une boîte, en fait. Tu as une boîte dans une boîte dans une boîte. Et tu n'as pas une ligne, en fait.
C'est une opération différente. Il n'y a pas d'intermédiaire qui lie les deux pour qu'on peut l'attaquer de deux différentes directions. La clé est indépendante. La transformation est différente. Ce n'est pas exactement le même truc. Et c'est pour ça que cette attaque spécifiquement.
Il y a encore des croisements plus compliqués à faire, peut-être.
Pardon ?
Oui, encore des croisements un peu plus compliqués. C'est pas juste un cop.
Mais... Oui, j'espère. On peut le découvrir et être fameux mondialement pour ça. C'est beaucoup plus bien d'être fameux qu'au CryptoCal quand même. Si vous voulez. Donc, attaque pratique et side channels. Oui, on a l'analyse de puissance de courant. Donc ici, c'est des attaques super pratiques. On a décrit beaucoup d'attaques théoriques. Vous êtes bourré de la théorie, mais en fait, même si on avait, disons qu'on a une fonction très 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 sûre, on va voir que AES aussi et 3DES sont des fonctions que maintenant, même en théorie, ils n'ont pas été complètement cassés. Les théoriciens, les cryptographes, les mathématiciens n'ont pas pu trouver une façon de casser 3DES en théorie. Aujourd'hui, complètement. Genre, il y a des failles que ça réduit la taille des clés un peu, mais ce n'est pas suffisant pour que ça soit dangereux. Mais en fait, il y a des attaques pratiques dans l'implémentation de ces protocoles qui donnent des fautes très très dangereuses. Donc premièrement, c'est juste on peut analyser la puissance du courant que l'ordinateur est en train d'utiliser. Et ça donne beaucoup d'informations en fait. Disons qu'on a un ordinateur qui est en train de faire une opération DES. Ok. En fait, chaque opération DES utilise un profil différent. Elle a une personnalité différente. On peut la connaître à travers l'utilisation de courant, de RAM, de CPU. Et en fait, si on peut obtenir ces informations, juste les milliampères en train d'être utilisés par l'ordinateur, ça, c'est la permutation initiale. Ça, c'est le réseau Feistel. Et ça, c'est la permutation inversée à la fin. Voilà. On peut reconnaître immédiatement que c'est DES. Et en effet, si on fait une analyse beaucoup plus précise, on peut savoir beaucoup d'informations sur peut-être la clé, le message, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est pas à chaque fois que ça va donner toute la clé quand même, mais c'est juste que ça donne beaucoup d'informations. Et surtout, AES, il est susceptible à cette attaque aussi. Sauf si on l'implémente d'une manière différente qui est en fait un peu lente, mais il devient plus susceptible. Mais oui, ces attaques-là donnent beaucoup d'informations sur les méthodes de chiffrement. Donc ça, c'est une attaque qui n'a rien à faire avec la théorie. On peut avoir un système, une permutation aléatoire parfaite, mais on l'implémente d'une façon où si on fait l'analyse du courant, on tombe sur des informations. Ça pourra même te dessiner « bonjour, la clé est… » etc. sur qu'est-ce qu'on appelle là ? Oui, bon, c'est oscilloscope. Elle ne va pas faire ça, mais quelquefois, ça arrive. Et donc, finalement, parlons de AES un peu. Quand le DES a été cassé, on a dû trouver un nouvel algorithme de chiffrement par bloc. Okay ? Parce que la taille des clés était trop petite. Le gouvernement américain a changé sa position sur le chiffrement. Il a permis toutes les tailles de clés possibles dans le monde, c'est aucun problème. Et donc en 1997, le NIST a constaté qu'on peut casser DES très rapidement, en 3 jours, comme ou en 3 mois, c'était en 1998, c'était 3 jours, comme le IFF et les autres chercheurs ont prouvé. Le NIST a publié une demande de proposition. Cette fois, c'était beaucoup plus sympa. Parce que premièrement, il n'avait pas une limite sur la taille de clé, bidule, etc. Et aussi parce que c'était très ouvert. En effet, cette fois, toutes les personnes dans le monde pouvaient soumettre à NIST pour être... En fait, c'est l'NSA qui a fait la sélection des chiffrements par bloc. Et ça va être analysé non seulement par les cryptographes super experts à l'NSA, qui sont clairement un des meilleurs au monde, mais aussi par des autres académies qui ont eux aussi fait soumettre des méthodes de chiffrement. Et donc, en fait, tous les académiques essaient de casser la méthode de chiffrement de l'autre parce que c'est moi le chiffrement le plus cool. Non, c'est moi, non, c'est moi. Et donc, tous ils essaient de démontrer des failles dans les autres propositions. Et donc, l'an prochain, ils ont eu 15 propositions des universités tout autour du monde. Et l'an prochain, ils ont choisi 5 finalistes. Et puis, en 2000, ils ont choisi... La fonction de chiffrement par bloc qui s'appelle Rheindahl parce que un des auteurs s'appelle Vincent Ryman et l'autre Joan Diamond, donc Rheindahl, ils ont combiné le nom, pas très créatif pour le truc, mais... en fait ils sont belges, ils s'étaient conçus à Lausanne en Belgique. Et donc en effet, les critères pour que Rheindahl ait été choisi pour être AES ne sont pas complètement basés sur juste la sécurité. Et c'est bien en fait, parce que c'est pas seulement ça qui compte. Donc voici une table de tous les finalistes. Il y avait Rheindahl, il y avait Serpent, Twofish, Mars et RC6. Et donc ils étaient classifiés basant sur la sécurité générale, et c'est un critère élaboré. La difficulté de l'implémentation, ça veut dire. Si moi je suis ingénieur et je ne sais rien de la crypto, je suis juste ingénieur informatique régulier, je fais des applis pour mon iOS, je ne sais pas, comment ça va être difficile pour moi d'implémenter le système de chiffrement? Et c'est en fait un très bon critère parce que c'est comme ça qu'on est sûr que ce système de chiffrement peut être implémenté facilement et que les implémenteurs ne vont pas faire des failles quand ils sont en train de l'implémenter. Donc il y a ce critère. La performance, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent? C'est aussi important. Si je suis en train d'utiliser AES pour chiffrer mon disque dur, c'est 256 GB de chiffrement, ça doit être un peu rapide quand même, pour que ça marche. Performance sur les smart cards, performance sur... Ok, donc la différence entre hardware performance et software performance, ici c'est la performance quand on l'implémente comme un logiciel, sur programme en C par exemple, ou en JavaScript. Hardware performance, c'est si je l'implémente comme un truc électrique, ou électronique, avec des résisteurs ou des... etc., physique. Et donc, comme vous voyez, par exemple, Serpent, il est très performant en hardware, mais pas aussi performant en software. Et donc, aussi, les design features, en effet, j'ai aucune idée. C'est juste des trucs, oui, ça prend des blocs de différents... ou des clés de différentes tailles, peut-être. Ou, des trucs intéressants ou des design features pour le rendre plus accessible ou implémentable, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont été combinés et... AES a gagné avec 2 points, ce qui est en fait un bon score. Il était très très rapide. AES a gagné surtout à cause de sa vitesse. Software performance, le plus rapide. Hardware performance, le plus rapide. Smart card performance, le plus rapide. Et la difficulté de l'implémentation ici était très facile à implémenter. Donc en effet, il y avait un système de chiffrement très rapide, très facile à implémenter. Il n'était pas le plus généralement sûr. Encore une notion un peu élaborée dans le document. Par exemple, il y avait tous les autres, sauf R6X, qui étaient plus sûrs. Mais en effet, apparemment, ça ne veut pas beaucoup dire. Parce que AES, ça fait 15 ans que ça existe et il n'y a pas une vraie attaque dessus. Toujours, les attaques ne sont pas très convaincantes. Et en fait, de ce que je connais sur AES, je serais très, très, très surpris si ça sera cassé dans le futur. Je pense pas... Je suis confident que... Confiant qu'il n'y va pas vraiment y avoir une attaque où ça réduit le key space à 2 à 56. Je suis très sceptique que ça va se passer. Mais je ne suis pas un expert, hein. Je suis juste un étudiant, mais depuis ma connaissance, ça paraît que ça va être sûr pour toujours, jusqu'à peut-être un jour on découvre, par exemple, un ordinateur qui est tellement... Il a tellement de puissance qu'il peut en fait calculer, faire une recherche exhaustive sur 2 à la puissance 128. Mais du coup, on a aussi des clés 2 à la puissance 256 avec AES. En fait, 2 à la puissance 256, c'est un numéro qui est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Il n'y a pas 2 à la puissance 256 atomes dans l'univers. Et donc vraiment, c'est genre, ça devient un peu ridicule quand même. Donc peut-être vous avez entendu des trucs genre quantum computers qui peuvent casser les chiffrements, etc. Ils peuvent casser certains chiffrements publics seulement. Théoriquement, c'est pas encore démontré. Mais les chiffrements symétriques comme AES, ça n'a rien à faire. On peut pas les casser avec un quantum computer ou quelque chose comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc il n'y a pas des méthodes magiques pour casser ce truc. Maintenant. Puisque ça fait pas mal de temps que je parle, on va regarder une animation qui explique comment marche AES. Ça va être interactif et fun. Pour ceux qui téléchargent ces slides en ligne, clairement pas vous maintenant, je vais mettre l'animation sur GitHub. Donc c'est pas moi qui a fait l'animation, c'est juste une animation que j'ai sur mon ordinateur depuis longtemps. Elle est très sympa et très efficace. Donc j'ai pensé, pourquoi on ne le regarde pas? Ça sera une façon plus accessible à comprendre comment marche les... Yes. Ok. Ah, je suis obligé d'être ici maintenant parce que je dois appuyer sur Enter. Voici, donc Ryandale, c'est le nom de AES avant qu'il ait devenu AES. Donc on a le, donc c'est en anglais, donc je vais traduire. On a le message clair qui entre par là, on a la clé qui entre par là, et on obtient le message chiffré. Ok. Donc le message clair, c'est 128 bits. Le chiffre ici dans cette présentation, ça va être la mode de AES qui prend aussi un clé de 128 bits, la même taille, et on obtient un chiffrement. Donc si on entre dedans, on voit que l'état c'est l'état au commencement, c'est juste le message. Donc état, ça veut dire ici l'état du message maintenant dans la fonction quand il est en train de passer dans AES. Ça commence par être un bloc du message. Et donc ça, c'est une représentation hexadécimale des bits du message. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas l'hexadécimal? J'ai aucun problème à expliquer. Ok. Donc ça, c'est une représentation hexadécimale du message, et ça, c'est une représentation hexadécimale du clé. Ça va partir à la procédure du chiffrement, et ça, au key schedule. Donc, le key schedule, c'est en fait le processus qui prend la clé et fait une clé différente pour chaque étape, comme on l'a décrit. Et donc, voilà. Ici, on a les étapes. Donc, ça, c'est une étape qui se passe seulement premièrement. Elle s'appelle, on a l'état, on a le clé de chiffrement. Ça s'appelle add round key. Donc, on passe l'état. Et puis, ça, cette collection d'étapes, on l'a fait 4 fois, 9 fois, je veux dire. 4 étapes, on les fait 9 fois. Et ça passe à la fin. La 10e fois, on fait ces étapes, mais on ne fait pas l'étape mixed columns. Pour des raisons. Et donc, chaque fois, constatez qu'on est en train d'utiliser une clé différente pour le chiffrement. Qu'on a tous dérivé de la première clé, une clé d'étape comme je l'ai montré avant. Oui. Oui, c'est 10 étapes. Oui. Pour AES. Pour DES, c'est peut-être différent. Mais ça dépend sur chaque. Donc, chaque étape, il y a en fait 4 types de transformations qu'on fait. Sub-byte, substitution bytes, ou substitute bytes, ça c'est le S-box. Ça c'est shift rows, on va voir, mixer les columns et mettre, et ça c'est XOR. Donc c'est comme DES, on a le S-box qu'on a vu dans DES, on a le add round key qu'on a vu dans DES aussi, le XOR, et ici ça c'est nouveau. Donc le substitute bytes, c'est juste on prend chaque byte. On trouve l'équivalent dans l'S-box, voilà, et on les substitue. Oui, absolument. Oui. Ah, c'est parce que la taille des clés, plutôt, je crois qu'à la fin, ça va donner une bijection. Donc on a shift rows, la 2e étape, qui fait une transformation linéaire cette fois. Vous allez voir. Donc le premier row, on ne fait rien. Le deuxième row, on fait une rotation de 1 position. Le troisième, une rotation de 2 positions. Et le quatrième, une rotation de 3 positions. C'est une fonction juste linéaire pour faire un petit mix. Et puis le mix columns. Chaque colonne, on fait une multiplication avec une matrice. En fait, je ne suis pas très sûr pourquoi on utilise cette matrice en particulier. Mais voilà, il y a une multiplication en matrice. Et puis ici, on fait de l'XOR, normal, comme dans le chiffrement de flux, comme dans DES et comme dans la plupart des systèmes de chiffrement modernes. Donc le round key, on fait l'XOR avec. Et ces transformations sont appliquées pour 9 étapes encore. Mais la dernière étape ne comprend pas le mix columns, la transformation de mix columns. Donc la multiplication avec la matrice. Et donc voilà, ça change après chaque étape. Puis finalement, on obtient ce truc. Ce qui est l'output, le ciphertext de la méthode de chiffrement. Donc voici, on a vu maintenant comment le chiffrement se passe du message, mais comment aussi, donc la question que tu as demandé avant, c'est comment on est aussi en train d'obtenir les plusieurs clés depuis la première clé, la petite clé, pour façon d'avoir une clé différente pour chaque étape. Donc voici la clé originale. On prend une colonne de la clé et on fait une opération qui s'appelle rotate word, donc juste une rotation comme ça. C'est aussi une opération linéaire, mais puis aussi sur la clé il y a une substitution avec l'S-box. Donc la clé aussi dans AES bénéficie d'une opération non linéaire et non affine, ce qui est intéressant. Et donc voilà, on a obtenu une colonne et puis on fait une XOR avec une autre colonne de la clé. On obtient un résultat, et voilà.
Ça, on a fait une expansion de la clé pour obtenir 4 bytes en plus. Et voilà. Voilà, maintenant on fait... Donc les autres parties de la clé, on est en train juste de faire un XOR, comme vous voyez. Donc cette colonne, on fait un XOR avec cette colonne et on obtient la colonne prochaine. Donc c'est plus simple. Et ça, on a simplifié ici pour être plus rapide, pour que l'implémentation soit plus rapide. Et puisqu'en fait, on a pu baser... Donc en fait, je vais expliquer ce truc parce que c'est un peu intéressant. Puisque on a obtenu cette colonne de cette manière élaborée, elle nous garantit certaines propriétés d'uniformité et d'être aléatoire et non linéaire. On a obtenu cette colonne d'une façon non linéaire, d'une façon uniformément distribuée, aléatoire, en utilisant les S-box et les XOR. Donc, puisqu'on a ces propriétés déjà ici, on peut les perpétuer avec juste un XOR. Ici. C'est vrai qu'il va y avoir une relation linéaire entre ce truc et ce truc, mais ce truc a été déjà dérivé d'une façon non linéaire. Donc, pour façon que AES soit plus rapide, on peut utiliser ce truc intelligent juste pour que ça soit plus rapide comme ça. Et donc, voilà. Voilà. C'est juste pour obtenir plus de vitesse, c'est tout. Et donc ici, on fait route word encore une fois, on fait la substitution comme on a fait la première fois, et puis on fait un XOR, mais puis pour le reste, c'est juste XOR, XOR, XOR. Et de cette façon, on a pris une petite clé et on a obtenu une grande clé, comme on a fait dans le chiffrement de flux d'ailleurs. Mais c'est juste qu'ici, puisqu'on connaît les tailles auparavant, on peut faire des opérations plus élaborées. Et voilà.
Donc, dans le prochain cours, on va voir qu'est-ce qu'on fait si on veut chiffrer plusieurs blocs, pas seulement un seul bloc, si on a un message, un grand message. Parce que 128 bits, c'est même pas suffisant si je suis en train d'envoyer une phrase ou quelque chose de simple. C'est plutôt un paragraphe, c'est beaucoup plus que 128 bits. Il y en a un simple paragraphe. Comment faire pour l'authentification des messages, pour façon qu'on est sûr que le message n'est pas modifié par un adversaire, l'intégrité du message. Quelles sont les autres attaques, et aussi plus de théorie et description formelle, surtout avec la liste différentielle et linéaire. Ok, si vous avez des suggestions pour le cours, des conseils, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et j'espère que vous venez la semaine prochaine. On va discuter comme c'est ça les questions qu'on va répondre, essayer de répondre la semaine prochaine.